Le voyage, il nous transforme. La personne que vous êtes en voyageant, c'est pas la personne que vous êtes au quotidien, parce que vous avez du temps libre, vous avez le temps. Votre cerveau, il se met en pause, et donc il y a d'autres choses qui émergent. Des choses qui émergent qui ne sont pas les mêmes qu'au quotidien. Et donc c'est hyper précieux, parce que c'est des moments de transformation profonde, très, très importants.
Bonjour à toutes, et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia DeSantis et je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie, mêlant développement personnel et voyage. Et non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un nouvel épisode de Vraie Vie. Un épisode sorti du chapeau, me direz-vous? Eh oui, un peu, mais c'est pour la bonne cause. Il y a quelques semaines, je zonnais sur mon feed Facebook, oui, je fais partie de ces personnes qui scrollent encore leur feed Facebook, et une pub attire mon attention, il s'agit des carnets Goget, la grande aventure. Je clique dessus, forcément, et là je découvre l'histoire de Sophie, la créatrice du carnet. Sur le site de présentation, c'est écrit « La grande aventure est un carnet de voyage conçu pour les âmes curieuses d'elles-mêmes et du monde ». Alors forcément, vous en doutez, eh bien ça a attisé ma curiosité et ça m'a plu. J'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus sur l'histoire de ce carnet et de connaître le parcours qui a permis à Sophie de se lancer dans la création de ce carnet. Alors pourquoi sortir un épisode comme ça, hors saison, alors que ça fait des mois que j'ai disparu et que je ne vous donne pas de nouvelles? Eh bien tout simplement parce que Carnet Goget est en campagne de financement via Ulule, donc si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller découvrir un petit peu cette plateforme, donc c'est une plateforme où vous pouvez donner de l'argent, contribuer à un projet pour aider la personne à sortir son projet. Si ça vous rappelle quelque chose pour les anciens, j'ai fait ça en 2019 pour financer les saisons suivantes de Vraie Vie et notamment d'avoir un meilleur matériel avec lequel j'enregistre actuellement. Et donc cette campagne pour Carnet Goget se termine le 10 décembre 2021, donc très très bientôt. Et j'avais très très envie de soutenir ce beau projet, donc à ma hauteur, en vous faisant découvrir la belle histoire de Sophie et vous permettre d'adopter, si vous le souhaitez aussi, la grande aventure. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram @devraievie où un joli concours vous attend pour tenter de remporter votre propre carnet. Pour le reste, rendez-vous sur ulule.com/carnet-goget. Toutes les informations sont en description de cet épisode, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse découvrir la très belle histoire de Sophie. Je vous souhaite une très belle écoute. Et je vous donne rendez-vous dès le mois de janvier pour le grand retour de la saison 4 de Vraie Vie. À très bientôt! Bonjour Sophie.
Bonjour Anastasia.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va très bien, il fait beau et je suis ravie d'être avec toi pour ce podcast.
Ah bah t'as de la chance ici, ciel gris, il fait que pleuvoir. Pourtant c'est le sud, mais j'ai pas choisi la bonne ville du sud.
Et comme quoi, être à Paris parfois.
C'est ça. À Paris, il fait plus beau qu'à Toulouse, ok. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur De Vraie Vie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai découvert ce que tu faisais il y a pas très longtemps via une campagne sponsorisée, comme je te le disais, et j'ai tout de suite accroché avec ton projet. Donc on va voir ce que tu fais, et voilà, donc je suis super contente qu'on ait cette discussion. Donc Sophie, tu es journaliste, tu es la créatrice de Carnet Goget. On va voir plus en détail ce que c'est. Et notamment d'un carnet pour lequel tu es en campagne Ulule qui s'appelle La Grande Aventure tout et qui fait. Est le carnet de voyage pour âmes curieuses. Et voilà, c'est super ce titre. Et donc en campagne jusqu'au 10 décembre 2021.
Tout à fait.
Donc, normalement, cet épisode devrait sortir avant. c'est quand même le but. Et donc, voilà, donc dans cet épisode, on va parler de comment tu as eu cette idée, d'où ça t'est venu, etc. Et puis on va essayer aussi de te découvrir toi en tant que personne, en tant que voyageuse aussi. Donc avant de parler de ça, petit retour en arrière, moi j'aime bien faire ça, pour savoir un petit peu d'où tu viens, etc. Tu m'as dit, donc tu es née, tu as grandi à Paris.
Tout à fait.
Comment est-ce que c'était ton enfance? Quels sont les souvenirs, les beaux souvenirs que tu avais de ton enfance ou quand tu te sentais?
Mes parents te diront que j'étais une forte tête et que j'obéissais à rien ni personne. Je vais pas te mentir, ça a pas trop changé depuis.
Petit caractère.
Ouais, je me suis peut-être un peu adoucie, mais écoute, j'ai le souvenir que j'étais très curieuse et que justement, quand je repense au moment d'enfance qui me rendait heureuse, ils sont très liés à ce que j'ai créé aujourd'hui. Et donc ça, c'est hyper important pour moi. Ça veut dire que vraiment, je me suis reconnectée à quelque chose de très profond. Par exemple, j'étais passionnée par l'univers des parfums et l'univers olfactif.
Ah, drôle.
Ouais, je rêvais d'être née. C'est le nom des gens qui créent les parfums. Et ça me passionnait. Je lisais tout ce qui était possible. Et encore aujourd'hui, je suis très attachée aux odeurs. Et d'ailleurs, j'aimerais que Carnet Goguette ait une signature olfactive. C'est très important pour moi. Je suis en train de travailler dessus. J'ai aussi le souvenir que je lisais beaucoup. Et d'ailleurs, c'est drôle, dans l'un de mes voyages que je raconte dans un de mes carnets, la grande aventure, enfin, que j'ai utilisée pour retracer ce voyage. J'ai fait ce qu'on appelle une cérémonie de Temazcal au Mexique. C'est une cérémonie de purification. En fait, c'est un peu leur hammam à eux. C'est des huttes de sudation. Mais c'est pas simple. Un soin corporel. C'est-à-dire que tu as de l'argile, mais en fait, il y a quelqu'un qui t'accompagne, qui va te faire traverser revenir sur toutes les périodes de ta vie pour t'en débarrasser. Et donc, elle te demande un souvenir heureux, un souvenir triste de ton enfance, ton adolescence et ta vie adulte.
Super intéressant.
C'est une cérémonie typique mexicaine. Et quand on me demande ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai pensé à un événement heureux de mon enfance, c'était les livres. Et ça, c'est vrai que encore aujourd'hui, ça reste, ça se ressent dans Carnet Goguette, dans l'imaginaire, dans l'univers que je souhaite créer. Les livres, pour moi, c'est essentiel. Aujourd'hui, je prends moins le temps de lire autant qu'avant. Mais quand j'étais petite, j'avais le souvenir que je rentrais avec des piles de livres de la Fnac. C'était le seul truc où on était full. Enfin, on était peut-être nos limites. Et en fait, c'est ça qui a changé ma vie, parce que ça t'ouvre au monde. En fait, ça t'ouvre à différents caractères. Tu découvres d'autres univers, d'autres personnalités, d'autres façons de fonctionner. Et voilà, je crois que c'est le souvenir d'enfance le plus heureux.
Donc ça revient avec l'imagination et quelque part, j'ai envie de dire, le voyage aussi. Parce que finalement, on voyage à travers un livre aussi.
Tout à fait. Et sinon, un autre événement, un autre truc heureux de mon enfance, je faisais beaucoup de GRS. Je suis même allée jusqu'au championnat de France en équipe, c'est la petite fierté de l'époque. Et j'adorais ça. Et encore aujourd'hui, pour la petite anecdote, je sais très bien faire la roue et parfois, il m'arrive de le faire.
Sans doute, soirée comme ça.
Voilà, en soirée, voilà, peut-être c'est pas la meilleure idée ni le meilleur moment. On aura le temps de revenir après sur les défis. Mais j'ai fait un défi où je devais faire un grand écart et c'était aussi un défi pour me reconnecter à ce truc d'enfance où j'ai le souvenir de moi dans la cour de récré en CM2 qui faisait le grand écart sur demande comme ça en claquant des doigts.
C'était la distraction de la cour de récré, quoi.
Ouais, le cirque, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, du coup, j'ai fait un défi pour essayer aussi de me dire, mais attends, c'est pas possible, tu le faisais comme ça, est-ce qu'aujourd'hui tu peux réessayer?
Ok, super intéressant. Effectivement, on va revenir sur cette histoire de défi un peu plus tard. Est-ce que tu avais déjà à l'époque des rêves de voyage? Parce que je crois que tu as aussi, tu parlais du Mexique, donc t'as pas mal voyagé, j'imagine. J'ai pas eu trop d'infos par rapport à ça, mais je te demande quand même, est-ce que tu avais cette envie de voyager de toute petite ou c'est venu beaucoup plus tard?
Non, j'ai eu depuis toute petite, déjà parce que j'ai énormément de chance, mais nos parents, mon frère et moi, nous ont fait beaucoup voyager. On a fait un grand voyage par an depuis que je suis née, quasiment. Et donc ça, c'est vraiment grâce à eux. Ouais. Aujourd'hui, mon frère vit à l'étranger. Mon père travaillait pour une entreprise américaine, donc il était très souvent là-bas. Peut-être à une époque, la majeure partie du temps par rapport à la France. Ma mère est passionnée de langues. Elle parle plusieurs langues, elle avait été jeune fille au pair aux États-Unis et tout. Et ils nous ont vraiment transmis ça à mon frère et à moi. Et voilà, et c'est vrai que à 6 ans, j'étais allée en Afrique du Sud, on est allée au Canada, on est allée dans plein de pays. Clairement, ça nous a marqué pour toujours.
Ouais, t'es baignée dedans, quoi, depuis toute petite, finalement.
Ouais, ouais. Et ça reste quelque chose qu'on adore tous, qui est hyper important pour nous.
Donc, tu vas faire des études de journalisme et tu vas devenir journaliste TV.
C'est ça.
TV, je sais pas comment on dit.
TV. Je travaillais pour des chaînes de télé. Je pourrais travailler pour d'autres médias. Hein. Je suis aussi formée pour travailler pour d'autres, mais j'ai choisi la télé.
Et pourquoi t'as choisi la télé, du coup? Parce que tu me parlais des livres, de la lecture, peut-être de l'écriture aussi. Pourquoi avoir choisi la télé, qui est assez loin finalement de tout ce qui est écriture?
C'est super drôle parce que c'est une question que je me pose encore.
Ah oui, d'accord.
En fait, si, je vais te répondre. Quand t'entres en école de journalisme, déjà tu passes des concours assez sélectifs, c'est un investissement. Et puis surtout, tout ce qu'on te dit, c'est aujourd'hui les médias sont en faillite, c'est très compliqué d'avoir un poste, c'est très précaire. Vraiment, tu grandis avec cette idée. Et même quand tu passes les oraux d'école de journalisme, ça peut faire partie des questions. Est-ce que vous avez conscience de ce qui vous attend à la sortie de l'école et que ça va pas,
ça va pas te galérer, quoi. On te dit dès le début, tu vas galérer. Ok.
Ouais. Et donc je pense que ça impacte tous les jeunes journalistes. Ça nous impacte aussi. C'est-à-dire que quand on parle de métier passion, c'est pas un hasard. On sait qu'on va pas gagner des fortunes, qu'il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est difficile de se faire sa place et que c'est un métier qui est complexe parce que tu dois maîtriser une large variété de sujets. Tu travailles toujours dans des temps qui sont très restreints. Enfin voilà. Et moi, j'ai choisi la télé pour trois raisons. La première, c'est parce que c'est là où il y avait le plus de travail
et parce qui que t'as entendu... Une fois que qu'il n'y avait pas assez de
presse écrite. Postes,
quoi.
Ouais, ouais, malheureusement. Après, c'est génial. Aujourd'hui, il y a encore plein de revues. Mais c'est des revues qui font appel à des collaborateurs. Il n'y a pas de CDI, quoi. C'est... Donc, la presse écrite, ça aurait été sans doute ma première inclinaison, clairement. Et aujourd'hui, si on me dit qu'est-ce qui te fait vibrer, bah, c'est clair que écrire un livre ou faire un reportage en long cours écrit, c'est même tellement plus facile pour moi. Ensuite, c'est qu'avec la digitalisation des médias et la baisse des budgets, beaucoup de journalistes ne font plus de terrain parce que ça coûte trop cher. Or, en télé, t'es obligé d'aller sur le terrain. Parce qu'il faut bien tourner les images. Aujourd'hui, maintenant avec les chaînes info, avec on travaille beaucoup avec les agences, donc les images de l'AFP, de Reuters. Donc au final, on fait pas toujours du terrain.
Ah oui.
Et ensuite, la troisième raison, c'est que c'est le degré de technicité qui est le plus élevé. C'est-à-dire que écrire un article, au début, on sait tous le faire, mais avoir la technique de savoir monter, savoir tenir une caméra. Alors moi, je suis pas journaliste reporter d'image. C'est comme ça qu'on appelle les caméramans qui sont aussi journalistes. Mais on est formé à ça aussi. Et donc, qui peut le plus peut le moins, et donc c'était plus simple d'avoir le maximum de compétences pour ensuite faire éventuellement de la radio ou faire de la presse écrite, mais au moins j'avais ces cordes-là à mon arc.
Donc pendant 5 ans tu vas travailler dans ce domaine, et puis à un moment donné dans ton parcours tu vas avoir envie de plus. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, il y a un an, mon contrat, je travaillais pour une chaîne info du service public, s'arrête parce que la personne que je remplaçais revient. Et à la rentrée, je reprends ma vie de pigiste, je recommence à travailler pour d'autres chaînes info. Et puis, j'avais vraiment du mal, j'avais la boule au ventre. Et puis, je commençais à vraiment avoir du mal avec le rythme qu'on nous imposait et avec le sens que je trouvais dans mon métier, qui pourtant me passionne et continue de me passionner. Et puis surtout, au mois de septembre de l'année dernière, je me dis, mais attends, c'est passé super vite, mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais dans 4 mois, t'as 30 ans.
Ah, dans 4 mois, ah oui, ok.
Et je me dis, ah ouais, mais du coup, je sais pas, quand t'étais petite, t'as 30 ans, tu te disais que tu serais plutôt comme ça, et puis en fait, là,
c'était quoi
comme
ça, comme ça?
Bah, j'imaginais plus adulte. Je pense pas du tout que la trentaine ce soit. Je pense qu'on peut être adulte à 15 ans et pas adulte à 45 ans. C'est vraiment pas. Enfin, cette notion d'âge, elle est pas si importante, mais pour moi, c'était vraiment un cap. Et je pense que inconsciemment, je m'étais toujours dit qu'à 30 ans, par exemple, un truc qui était évident, c'était je ne peux pas avoir 30 ans et ne pas avoir mon permis.
Ok, c'était pas les enfants, toi, c'était le permis.
Non, ça va. Ça va, j'ai encore. Ça va. Je considère que j'ai encore du temps devant moi. Mais il y avait plein de choses comme ça où je me disais, mais attends, en fait, plein de choses dont je voulais me débarrasser aussi, que j'avais l'impression que je me trimballais, où je voulais m'en libérer, plein de peurs que je voulais dépasser. J'avais envie de faire le ménage. Et puis surtout, j'avais développé un peu une frustration de mes vies de journaliste avec beaucoup d'horaires décalés, beaucoup de week-ends travaillés, et l'impression que je subissais un peu mon emploi du temps en permanence, qui me coupait beaucoup des autres et des opportunités que je pouvais avoir, notamment pour tout ce qui était aventure, où tu peux pas le faire seul et t'as besoin d'un guide, et souvent si tu veux partir à l'aventure pour telle ou telle escapade, en fait c'est le week-end et c'est pas le lundi à partir de 18h.
Donc aventure, toi tu veux dire voyage, partir dans faire une randonnée dans la forêt
Ouais, ce genre de choses.
Un peu, en tout cas,
qui sort de l'ordinaire. Ou t'as besoin d'encadrement, faire de la cascade de glace ou faire ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, ok, donc j'ai 30 ans dans 4 mois. Et en fait, la vie, elle passe trop vite. J'avais toujours eu des rêves depuis toute petite, même quand je relis mes carnets d'enfance, j'ai des listes de rêves, de choses que je veux faire et tout. Donc, c'est vraiment ancré en moi depuis toujours. Mais là, je me suis dit, je vais m'activer en fait, parce que la vie, elle est courte et j'ai envie de profiter de chaque seconde et j'ai envie que la vie me ressemble et surtout que la vie que je mène me ressemble. Et ouais, il y avait vraiment ce truc de j'ai plus le temps en fait là. J'ai plus le temps de faire semblant, j'ai plus le temps de passer à côté de la vie que je veux mener. Il y a trop de choses que je rêve de faire et donc, go.
C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y avait vraiment ce cap des 30 ans, où c'est un peu l'âge... Enfin, en tout cas, moi, c'était la même chose, tu vois, je m'étais vraiment dit, la vingtaine, ça va, mais 30 ans, ça devient sérieux, quoi. Et pareil, ce truc de 30 ans, je devrais être une adulte, et de je sais pas, de voir aussi les gens autour de toi. Après, ça dépend dans quel milieu t'évolues, mais je sais que moi, je viens de province, et donc les gens font les choses plus vite que quand t'es à Paris, par exemple. Moi, à 25 ans, j'ai une pote qui s'est mariée, elle a eu des enfants, enfin là, elle va avoir 32 ans, elle a déjà 2 enfants. Tu vois, enfin, il y a ces trucs-là aussi de comparaison de ce que les autres font et toi. Et pareil, comme tu dis, ouais, des choses de, j'ai envie de partir voyager, j'ai envie de faire ça. Et en fait, je me suis dit, je le ferai plus tard. Je repousse. Et puis, en fait, le temps passe. le quotidien prend le dessus et voilà. Mais c'est intéressant je pense qu'on est très nombreux à avoir ce truc psychologique des 30 ans. Comme si, pas la vie s'arrêter à 30 ans, mais comme si à 30 ans c'était fini des conneries. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, moi. Alors que non, tu peux continuer à t'amuser, à faire plein de trucs. T'es pas obligé de rentrer dans un truc, quoi.
Ouais, cet appel-là de vivre une vie plus authentique qui te ressemble, de dépasser tes peurs, en fait, tu peux l'avoir à 24 ans, à 37 ans. Évidemment, il n'est pas lié à la trentaine, mais c'est vrai que je pensais pas que cet aspect 30 ans avait tant d'importance pour moi. Mais de fait, quand je vois le turbo que je me suis mis à l'approche de cette échéance, je pense qu'elle me travaillait plus que je n'en avais conscience.
Tes 30 ans approchent, et là tu vas dire, il faut que je marque le coup, il faut que je fasse quelque chose d'original pour ça. C'est dans 3 mois ou 4 mois, qu'est-ce que tu vas mettre en place ?
Ben, je fais la liste de tous mes rêves, toutes les choses que je rêvais d'accomplir, toutes les choses que j'avais envie de tester, de découvrir, même les trucs un peu débiles, quoi, juste ce qui me faisait un peu envie, les peurs que je voulais dépasser, les choses dont je voulais me débarrasser. Et j'ai listé ça, j'en ai listé 90, et je me suis dit, ok, ben, je me lance, je vais créer le projet 3 months before I'm 30, donc 3 mois avant d'avoir 30 ans, et j'ai réalisé un défi par jour jusqu'à ce que je souffle mes 30 bouchées.
Alors, 90 ou 100 ? T'as été jusqu'à 100.
Alors,
en fait, t'en as rajouté 10.
Alors, comme évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu, et c'est bien normal et heureusement, on a été reconfinés pendant ce temps-là. Donc, il a fallu que je repense tous les projets. Ensuite, j'en ai pas fait complètement un par jour. Il y a eu des jours où j'ai pas réussi à en faire parce qu'en fait, c'est juste... vraiment trop difficile, quoi. Puis il fallait que je souffle aussi. Et puis en fait, il y a des jours où on n'est pas tout seul et en fait, on peut pas toujours y arriver. Donc j'en avais fait un peu moins. J'avais dû en faire. Il faudrait que je vérifie quand j'ai eu 30 ans, mais j'ai dû en faire plutôt aux alentours de 80.
Quand même.
Surtout.
Trois mois, c'est ouf.
Je crois que j'avais calculé que j'avais peut-être surtout les 3 mois, peut-être pris mes week-ends en fait. Et surtout, en fait, en arrivant à 30 ans, je me suis dit, mais il y a tellement de défis que j'ai pas eu le temps de faire, comme on a été reconfinés, que ensuite les restaurants n'étaient pas ouverts, les hôtels, donc c'était compliqué si on voulait bouger. Enfin, et en fait, surtout, je me suis dit, là, ceux qui restent, je vais pas les faire à la chaîne, et je vais prendre le temps qu'il faut. Et en fait, si là je finis mes 100 défis dans 2 ans, je finirai dans 2 ans. Mais là, ceux qui restent, c'est aussi ceux qui me tiennent vraiment à cœur et, ouais. et qui prendront le temps que ça prendra.
Et du coup, c'était quoi ces défis ? T'as une petite liste, j'imagine, d'exemples à nous donner. Ça partait de quoi jusqu'à quoi ?
Alors, il y avait par exemple tous les défis outdoor. Ça, c'était le plus important pour moi. C'était le truc qui me faisait vibrer. Il y a un an, j'avais commencé à me mettre, j'avais commencé à me mettre à la randonnée. Ça me faisait vraiment vibrer. Donc, j'ai par exemple descendu une partie de la Loire en canoë.
Ok, super.
C'était génial. À cette occasion, j'ai dormi pour la première fois dans une tente, car oui, c'est possible. À presque 30 ans, je n'avais jamais dormi dans une tente.
Même dans ta jeunesse ? Même quand non. Tu faisais des soirées camping
Alors peut-être que si j'avais déjà dans un jardin, mais pas pour moi le vrai bivouac de je suis dans la nature, j'arrive avec mon équipement et le lendemain j'enlève et d'être dans l'itinérance aussi. Enfin pour moi le vrai bivouac de j'ai appris à planter une tente quoi. Je me disais mais c'est pas possible de pas savoir planter une tente. Ou juste d'essayer, de savoir est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est pas difficile, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est lourd dans mon sac à dos, qu'est-ce que ça change, enfin, juste de savoir quoi. Donc j'ai fait ça. Ensuite, moi j'ai très peur du vide, donc je me suis dit évidemment, on va aller là-dedans.
Bien sûr, allez.
Donc voilà. Donc j'ai fait du parapente, j'ai aussi escaladé une cascade de glace. Ça c'était un des trucs qui me faisait vibrer. Je regardais plein de vidéos, ça me faisait rêver. Évidemment, ça ne se passe pas comme dans les vidéos. Moi, j'étais tétanisée.
Escalader une cascade de glace, t'as fait ça où déjà ?
J'ai fait ça à Briançon. Il suffit que ce soit une cascade qui a gelé. Parfois, il y a aussi, et c'est le cas sur la mienne, c'était une cascade artificielle.
D'accord.
Donc eux-mêmes, en fait, mettent de l'eau en haut et ils attendent que ça gèle. Et donc voilà, ça c'est artificiel. J'adorerais en faire vraiment dans des zones naturelles, mais c'était quand même une bonne introduction dans ce cadre. Et en fait, comment tu la grimpes ? T'as des crampons, t'as un piolet, t'es encordé, et en fait, tu mets ton piolet, tac tac tac. Casse la glace, t'attends de voir si ton piolet accroche bien, et ensuite tu grimpes en plantant tes crampons. Il faut surtout rester très droit, c'est contre-intuitif parce que moi évidemment, je me rapprochais le plus possible de la cascade
pour pas tomber.
Mais voilà, parce qu'évidemment, il faut pas du tout faire ça. Déjà, ça ne te permet pas de te tenir correctement et d'avoir une bonne stabilité. Et en plus, je me suis mais éclaté l'intégralité des jambes. J'avais des bleus, mais partout. Parce que la glace, évidemment, c'est dur.
Mais froid, donc en cas de bleu.
Oui, voilà. En soi, et puis c'est pas très dangereux. Je suis encordée, j'étais avec un guide et tout. Mais voilà, j'aurais pas pu savoir comment je me sentais si j'avais pas tenté, en fait. Quand je voyais les vidéos, je voyais les gens qui allaient super vite, qui escaladaient 5 secondes. Et moi, j'arrivais pas. Et puis en fait, c'est hyper physique de planter son piolet. Il faut le faire vraiment de manière très, très soudaine et très forte pour que ça s'enfonce.
Ouais, ouais, ouais.
Et en fait, pour les bras, c'était hyper physique. Pareil pour les crampons. Enfin, c'est vraiment une petite expérience en soi.
Il y a une notion aussi de dépassement de soi, j'ai l'impression, dans ce que tu faisais.
J'avais à la fois envie de sortir de ma zone de confort, casser ma routine, et aussi envie, ouais, de me mesurer et savoir de quoi je suis capable. Aujourd'hui, j'apporterai un peu de recul. Je pense que pour savoir de quoi on est capable, on n'est pas obligé de se mettre dans des situations comme ça. Et ce qui doit, selon moi, ce qui est le plus aidant et peut-être le plus satisfaisant quand on se lance dans un projet comme ça, c'est plutôt de se dire, ok, qu'est-ce qui me procure de la joie, qu'est-ce qui me donne des frissons. Moi, aujourd'hui, l'alpinisme, ça me donne des frissons. Voilà. Pourtant, ouais, j'ai extrêmement peur, mais quand je vois les ascensions dans l'Himalaya, ou voilà, ça me fait vibrer. Et tant que ça me fera vibrer, ben, j'essaierai peut-être de me diriger vers ça. Alors que je suis très peureuse, et c'est peut-être assez surprenant quand on regarde mon projet, on pourrait peut-être pas s'imaginer, mais en fait, je suis vraiment peureuse. Enfin, pas peureuse, mais la peur, je la ressens souvent et de manière très intense. Mais elle est là.
Mais elle t'empêche pas de faire des choses.
Voilà. Juste, du coup, il y a des gens pour qui c'est plus simple émotionnellement, quoi, pour moi. Pour moi, parfois, c'est vraiment difficile.
Après, et comment t'as choisi ces défis? Vraiment, est-ce que tu t'es mis, sur une table, un coin de table, et tu t'es dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
Ouais.
Si, je sais pas si je devais mourir dans 2 mois. Enfin, j'en sais rien, comment tu...
Ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit, bah attends, déjà, c'est surtout tous les trucs où je m'étais dit, ah, ça m'intéresse trop, et puis je prenais pas le temps. Donc, ouais. Les grandes aventures en extérieur, bah clairement, surtout quand t'es parisienne, ça prend du temps parce que tu peux vivre des expériences super dans la forêt de Fontainebleau ou dans le Vexin, mais il faut quand même avoir ne serait-ce que du temps long pour se déplacer, pour participer à certaines activités quand elles sont possibles. Donc, il y a aussi une question de saisonnalité, notamment pour l'hiver, pareil pour l'alpinisme, tu commences pas l'alpinisme l'hiver, tu commences l'été plutôt. Voilà, et aussi la liste de tous les défis. Par exemple, j'ai fait un défi une semaine zéro déchet, et ça, ouais, c'était un sujet qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, mais je prenais jamais le temps. Il y a tellement d'infos, c'est tellement difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, on sait pas qu'est-ce qui est le plus important, arrêter de prendre l'avion, manger de la viande rouge, est-ce que si je pèse mes déchets à la fin de la semaine, qu'est-ce qui est le mieux entre acheter des vêtements de seconde main, ou acheter par exemple, j'ai fait un défi vegan aussi, est-ce que c'est mieux de pas porter de matière animale, ou est-ce que c'est mieux en achetant du coup de la fausse des matières industrielles dans des trucs de fast fashion. Enfin, en fait, ouais, c'était plein de questions que j'avais de comment mener une vie plus responsable et surtout plus éclairée. Il y avait aussi beaucoup de questions sur le féminin sacré. C'est pas un sujet que j'ai assez approfondi, et c'est marrant, si on les évite, c'est qu'il y a un truc à creuser encore plus. Donc ça reste dans la liste de mes défis.
C'est quoi qui t'intéressait là-dedans, par exemple?
Dans le féminin sacré, bah déjà, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Qu'est-ce qu'il y a de... on parle pas de masculin sacré, enfin en tout cas, encore aujourd'hui, je suis pas expert, donc je veux pas dire de bêtises, mais je me suis dit, voilà, pourquoi on parle de féminin sacré et pas de masculin sacré? Déjà, le terme sacré, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, non, la vraie question, c'est drôle que tu me la poses, et ça reste une question que j'ai pas du tout, où je suis pas allée jusqu'au bout. J'avais prévu de faire un podcast sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme.
Ah.
Et tu me fais me penser, évidemment, que c'est le défi que j'ai enfoui. J'ai fait des tonnes d'interviews et je n'ai utilisé aucune des interviews que j'ai faites. Et c'est drôle que tu viennes montrer ça, parce que il y a une question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qui fait de moi une femme? En quoi suis-je différente d'un homme? Au-delà de nos caractéristiques physiques, qui en plus parfois peuvent se retrouver semblables, ou par exemple sur le fait que, je sais pas, si une femme ne peut pas avoir d'enfant, elle se rapproche en ça d'un homme pourtant. Qu'est-ce qui fait de moi une femme? Et c'est une question qu'on se pose beaucoup avec ma meilleure amie aussi. Et dois-je être féminine pour me sentir femme? Qu'est-ce que la féminité? Et voilà, et surtout, et ça pour moi c'était vraiment lié aussi à la trentaine, dans l'optique un jour d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Et c'est pas quelque chose d'immédiat pour moi, mais c'est évidemment des sujets qui me travaillent. Qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre? Comment j'aurais envie de les élever? Et pour moi, La personne que j'ai envie d'être quand je serai maman, c'est quelqu'un qui sait ce qui est bon pour la nature, pour l'environnement, qui sait qu'il y a quelques bases d'éducation, notamment sur le genre. Et voilà, et j'avais envie d'approfondir ces sujets-là, c'est des sujets d'actu, et aussi parce que c'est des sujets où j'ai pas de réponse.
Donc t'as quand même commencé le projet, au sens où t'as fait des interviews, et t'arrives pas à le bout parce qu'il y a un truc qui bloque, quoi, et tu sais pas quoi.
Ouais, il y a un truc qui bloque. Peut-être que c'était aussi l'aspect journalistique et que j'avais envie de faire une pause de mon métier. Ouais. Et écoute, peut-être que je vais m'y remettre un peu plus tard. Ouais. Et c'est aussi, on en parlera, mais avec Carnet Coquette, c'est aussi l'un des sujets, en tout cas la position de la femme dans le milieu de l'aventure et de l'exploration et du voyage, c'est quelque chose qui m'intéresse et je donne la parole à plein de femmes dans ce sens. Donc ouais. Voilà, en tout cas la position de la femme dans la société, ça reste un sujet qui me passionne.
Super. Justement, comment tu t'es organisée? T'as gardé ton travail de pigiste ou tu as complètement tout arrêté pour te consacrer 100% à ces défis?
J'ai tout arrêté pour me consacrer 100% au défi. Honnêtement, j'aurais pas pu avoir un job à côté.
Un défi par jour,
Ouais, c'était vraiment impossible. Et après mes 30 ans, j'ai recommencé des missions dans ce secteur-là, mais plus de la même manière qu'avant.
D'accord. Et parmi ces défis, donc tu vas te donner notamment un défi en particulier qui est de lancer de te lancer dans la création de ta marque de papeterie. C'est une envie que tu as toujours eue, de ce que je comprends, qui te trottait dans la tête depuis longtemps.
C'est la passion des carnets, c'est depuis l'enfance. Et c'est drôle parce que cette année, j'ai retrouvé mon tout premier carnet de voyage que j'ai fait. Et j'ai 10 ans, on est en 2001, donc c'est il y a pile 20 ans. Incroyable, cette coïncidence, vraiment, elle me donne des frissons. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est qu'à l'époque, j'écris déjà exactement ce que j'écris aujourd'hui en collant mes petits tickets de musée, ce que j'ai appris, pourquoi ça m'a intéressé, ce que j'ai mangé, notre itinéraire et tout. Mais du coup, pour revenir au défi, j'avais demandé à tous mes proches, ça c'était parce que ce projet des 100 défis, c'était aussi un moyen d'inclure tous les gens que j'aime. Et d'ailleurs, j'ai fait des défis avec des amis, avec deux copines, on a appris une chorégraphie, avec d'autres potes, on a monté une pyramide humaine.
Ah, génial.
Je sais plus ce que j'ai fait d'autre comme défi avec d'autres gens, mais c'était ah si, j'ai chanté en public avec une copine qui était au piano, ça c'était horrible.
Ah oui.
Mais bon voilà.
Mais tes potes te soutenaient quand même dans cette aventure, c'est drôle.
Ouais, bah ça les faisait marrer.
Ouais, c'est ça. Ils voulaient t'aider à réussir quoi.
Ouais, et puis ça les faisait rire aussi de participer à ce projet. Je pense que voilà, ça leur parlait aussi. Et donc, j'avais demandé à tous mes proches de me donner un défi, et celui de mon amie Anne, qui est entrepreneuse, ça a été de dire, écoute, ton idée de carnet, là, ça fait un petit moment que t'as des petites idées avec tes carnets, je veux que tu te lances. Et donc, l'idée, c'était de faire des carnets à remplir pour permettre à tout le monde de célébrer les grands moments de la vie. Donc ouais, c'est comme exactement. Ça qu'est né Carnet Goguette, qui est une marque de papeterie consciente, et c'est vraiment important ce terme papeterie consciente, parce que c'est des outils pour prendre conscience et reconnaître tout ce qu'il y a de magique dans notre existence. Et le premier produit, c'est un carnet de voyage, donc la grande aventure, le carnet de voyage des âmes curieuses. La curiosité, c'est vraiment la valeur qui est la plus importante pour moi. Et voilà, et ça m'a pris 9 mois. C'est un défi qui m'a pris pas mal de temps. Et au final, j'ai créé ma marque. Et maintenant, mon premier produit, le carnet de voyage, il est disponible sur Ulule. Et c'est un carnet de voyage qui est en fait qui correspond à tout ce qui est important pour moi. Donc c'est un carnet qui est divisé en 3 parties, avant, pendant et après. Parce que le voyage commence en fait dès qu'on le rêve et il continue d'infuser en nous bien après. Et c'est un carnet qui permet à la fois de s'organiser, comme moi j'ai fait avec mes défis au final, mais aussi surtout de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on recherche vraiment quand on part voyager? Qu'est-ce qu'on attend de ce voyage? Qu'est-ce qui nous met en joie? Et vraiment toute cette dimension aussi de développement personnel, de développement de la gratitude qui est émaillée tout au long du carnet, savoir ce qu'on a le plus aimé, ce pourquoi on est reconnaissant. Et il y a tout cet aspect de la curiosité, avec plein de rubriques pour découvrir des infos insolites sur sa destination, décrire une scène, décrire une coutume, parler avec les locaux, leur demander leurs bonnes adresses. Voilà, c'est vraiment un outil qui permet de se reconnecter à soi et de se connecter au monde. Et évidemment, avec ma première passion qui est celle d'écrire, et qui, notamment pour ceux qui ont envie de tenir un carnet de voyage mais qui ne savent pas par où commencer, c'est vraiment un super outil parce qu'il va vous guider tout au long de votre voyage et ça va vous donner des idées. Moi, j'ai plein de personnes qui ont testé les prototypes, qui ont dit mais c'est génial parce que du coup, dans la journée, je voyais tel truc et je me disais, ah c'est super, je vais pouvoir le marquer dans le carnet du coup. Et voilà, et le carnet vient développer votre curiosité, votre présence au monde, et ensuite, ça va venir nourrir votre écriture. Donc tout se nourrit.
Et ça permet aussi d'avoir un objet souvenir et de se rappeler. Parce que c'est exactement ça. Enfin, j'en parlais vraiment hier parce que j'ai retrouvé aussi un de mes carnets quand je suis partie à mon premier grand voyage post-burnout, où tu quittes la vie parisienne, où tu dis, ok, vas-y, je vais faire un carnet de ce voyage, je vais tout noter, comment je me sens, etc. Et en fait, j'ai pris juste un carnet vierge, tu vois, et j'ai commencé à remplir alors, je l'ai fait, je pense, pendant 3 semaines, et après, j'ai arrêté, ce qui est dommage. Et même pas 3 semaines, enfin, entre-temps, il y avait des coupures de une semaine, et en le retrouvant, en le relisant, je me suis dit, ah, mais c'est hyper intéressant de me replonger dans l'état aussi physique, mental, dans lequel j'étais à l'époque, les questions que je me posais, et de voir l'évolution. Et j'avais envie de le lire, j'avais envie de suivre cette évolution le long de cette aventure, de me rappeler des choses aussi, des rencontres, comme tu dis, les coutumes, ce genre de choses où, quand t'es dans le pays, c'est drôle, c'est nouveau, etc., mais si tu le notes pas, en fait, t'oublies. Ou genre, je sais pas, t'apprends des mots aussi souvent quand tu vas dans un pays, enfin voilà, quand tu vas en Indonésie par exemple, t'apprends à parler, tu dis 3-4 mots, et ça c'est des choses qu'il faut effectivement se noter pour s'en souvenir. Je trouve que c'est important aussi d'avoir cette dimension de souvenir, de bel objet après à garder.
Sache que tu n'es pas la seule à ne pas à ne pas finir tes carnets. Je pense que c'est vraiment, quand j'ai préparé Carnet Goguette, c'était sans doute, comme disait 80% des gens. Et j'adore, je commence et puis en fait très vite j'arrête, puis j'ai la flemme et puis je sais plus trop quoi raconter et puis en fait j'ai plus le temps. Et ça, c'est un point qui est hyper important pour moi en voyage. Le but du voyage, c'est de vivre avant de le raconter. Ça sert à rien d'être collé à son carnet pendant 4 heures tous les jours. Faut expérimenter le maximum de choses, enfin, en tout cas faire les vacances qu'on a envie de faire, et ensuite on les raconte. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Et donc la grande aventure a vraiment été conçue pour ça, pour avoir plein de petites rubriques qui se remplissent rapidement. Il y a des espaces aussi vierges si on veut avoir davantage de place pour écrire, pour dessiner, pour coller ses propres trucs, laisser libre cours à sa créativité. Mais l'idée, c'est que ça prenne pas trop de temps. Non plus. Et effectivement, aussi un des points qui est hyper important à mes yeux, c'est que je suis très attachée au papier, à la matière, et aussi à avoir une activité créative en dehors de son smartphone. Et aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'on a quand même plus de chances de garder un carnet chez soi que de garder ses photos, parce qu'on va perdre nos portables, iCloud ça marche pas toujours, que les disques durs externes on peut aussi les perdre, les casser, et mais en revanche un carnet c'est quand même plus simple, et surtout dans des périodes de voyage où on a besoin un peu de lâcher prise, se déconnecter, avoir un carnet papier c'est pas mal.
Que tu peux ressortir de ton tiroir 15 ans après et te dire, ah ouais, j'ai vécu ça, et te replonger dans ce voyage
ouais,
avec puis, un recul, un regard neuf, quoi.
Dans la grande aventure, t'as des espaces pour que les gens t'écrivent un mot s'ils en ont envie. Tu parlais tout à l'heure aussi de la langue et des mots que t'apprends. Par exemple, t'as une page qui est dédiée aux mots et aux expressions, et je l'adore, et notamment au Mexique. Génial. J'ai demandé à tous les gens que je croisais, la serveuse du restaurant, le mec que tu rencontres dans la rue, je leur ai demandé à tous c'est quoi votre mot préféré, et c'était trop bien. C'était génial, j'ai appris vraiment des mots que j'aurais pas entendu en plus dans la vie de tous les jours, parce que ça s'y prêtait pas, et que je parle pas espagnol, donc j'aurais pas forcément pu les reconnaître. Et en même temps, ça m'a donné tellement d'éléments de culture, tellement d'éléments de personnalité sur ces gens à qui j'ai parlé, sur leur sensibilité, sur eux, ce qui les faisait vibrer. Et effectivement, tout ça, dans un portable, c'était pas pareil.
Tu insères des défis, en fait, dans ce carnet aussi. Le truc de demander, tu vois, de noter les expressions favorites, ça veut dire, ça veut dire qu'il faut aller demander à quelqu'un, la serveuse du bar, par exemple, c'est quoi son mot préféré, tu vois, que tu aurais pas fait en temps normal.
Effectivement, en tout cas, c'est vraiment un carnet qui développe ta curiosité. Alors après, les mots, si t'es timide et que t'oses pas demander, tu peux les remarquer au musée ou sur une carte. Par exemple, j'ai le souvenir à Hawaï qu'il y a une spécialité qui s'appelle les pupus. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Avec ma meilleure pote, ça nous faisait mourir de rire, et à chaque fois qu'on le voyait, on disait tu veux un pupu, et voilà. Et ça, c'est les mots et les expressions d'ici. Ou je sais plus, j'ai une amie qui a vécu dans un pays africain et qui racontait qu'ils avaient là où elle était un niveau de langue vraiment très très élevé, et du coup même quand ils s'engueulaient sur la route, dans les embouteillages, c'était toujours de manière hyper chic et hyper élégante, et vraiment c'est je vous prie d'arrêter de m'ennuyer, ou ce genre de choses. Et voilà, ça, c'est tout ça, c'est des petits détails. C'est en fait, il faut juste garder les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes, et juste qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous fascine, qu'est-ce qui fait que vous dites waouh, c'est trop marrant ici, pourquoi ils utilisent tel terme. Toutes les langues, c'est vraiment le véhicule d'une société, d'un peuple, d'une façon de penser. Donc c'est vraiment un marqueur hyper fascinant pour découvrir une culture.
Et tu parlais avec ton ami là des pupus, mais c'est vrai que même les délires qu'on a avec des rencontres ou des potes, même si on part en voyage seul mais qu'on rencontre un tel et qu'après on a vraiment on se marre sur un truc, rien que de le relire des années ou des mois plus tard, c'est toujours un plaisir en fait de se replonger dans ce moment et de se dire ah mais oui, tu te souviens, il y avait machin, il avait ramené je sais pas quoi, enfin
ah bah je te confirme, ça me fait bon. Je confirme. Et d'ailleurs, il y a une page qui est dédiée à ça, les phrases cultes du voyage. Et, ouais, et toujours cette même amie, elle est une machine à punchline. Et on était parti faire un road trip dans le sud des États-Unis ensemble. Et effectivement, récemment, je suis retombée sur ce carnet où il y a nos Polaroids, il y a les photomatons qu'on a fait dans un bar de Nashville.
Génial.
Et surtout toutes les phrases cultes qu'elle a pu sortir ou que j'ai pu sortir aussi. Et ça, mais on en rigole encore. Enfin, vraiment, il y a des trucs, on se le renvoie encore maintenant. Et ça, c'est une page que j'adore. Et surtout, c'est une page qui fait vraiment plaisir à tout le monde. C'est un truc qu'on peut partager après quand on ressort le carnet, dire ah mais tu te rappelles, t'avais sorti ça ou un tel. Avait sorti ça, ou le mec de l'hôtel, mais il avait ça. Dit ça et ça nous avait fait trop rire. Le voyage, il nous transforme. La personne que vous êtes en voyageant, c'est pas la personne que vous êtes au quotidien, parce que vous avez du temps libre, vous avez le temps, votre cerveau il se met en pause et donc il y a d'autres choses qui émergent, des choses qui émergent qui sont pas les mêmes qu'au quotidien. Et donc c'est hyper précieux parce que c'est des moments de transformation profonde très, très importants.
Et les premières fois aussi. Parce que je pense que tu comprends ce que je vais t'expliquer. C'est que quand tu arrives dans ton premier voyage par exemple, tout est nouveau pour toi, tu débarques, le moindre petit détail te marque, etc. Et en fait, quand tu commences à voyager régulièrement, t'es plus aussi ébahi par la moindre petite chose, ça devient presque normal, naturel, et c'est intégré. Enfin, moi, c'est un peu l'expérience que j'ai, où au bout d'un moment, c'est pas pour me la péter, mais où je voyageais de manière tellement régulière qu'effectivement, j'avais plus ce truc de « Oh, waouh !» Quelque chose de nouveau. Alors que je l'avais vraiment au début du voyage et ça devenait presque voilà, j'ai pris mon avion, j'ai fait 12 heures de vol et je suis arrivée dans un nouveau pays et voilà, et je vais enchaîner. Enfin, je sais pas comment dire, mais un peu le truc d'habitude, alors que noter les premières fois, la première fois qu'on pose un regard sur quelque chose ou sur une première rencontre, c'est toujours intéressant aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me parle vraiment. D'ailleurs, dans le carnet, c'est aussi un des trucs que j'ai voulu vraiment montrer avant que chacun coche la liste de ce qu'il a visité, ce qu'il a bien fait, tel musée que tout le monde recommande, manger tel truc que tout le monde recommande. C'est plutôt qu'est-ce que tu ressens toi. Et d'ailleurs, c'est la première page de la partie pendant du carnet, c'est mes toutes premières impressions. Et en fait, parfois, on n'y réfléchit pas, on n'y prête pas vraiment attention, mais si on s'y reconnecte, tout de suite, on a une première impression. La couleur, ne serait-ce que de la sortie de l'aéroport, quelles sont les couleurs qui nous marquent? Il y a toujours des fleurs ou des plantes qui sont plantées à la sortie de l'aéroport. La langue, la chaleur, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait, au contraire, hyper froid? Voilà, les bruits qu'on entend, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous parlent pour prendre un taxi? Ou au contraire, est-ce que c'est très calme? Est-ce que c'est très rangé, très codifié? Il y a tout ça. Et sur le voyage à outrance qui déconnecte, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le Covid nous a vraiment permis aussi de nous rendre compte à quel point nos habitudes de voyage étaient délirantes.
Ouais, c'est vrai.
Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même nombreux à plus se faire des city trips de 2 jours à Berlin, de 2 jours à Amsterdam. Déjà parce qu'avec le télétravail, on peut prendre plus de temps. Et moi, aujourd'hui, j'avoue, ça me paraîtrait mais quasiment impensable d'aller juste 2 jours à Milan, 2 jours dans les Pouilles, parce que j'ai envie de profiter. Ça n'a pas de sens. Et parce qu'en fait, on a besoin de temps pour s'adapter déjà. C'est pas facile de sortir de sa routine. Et puis pour vraiment en avoir envie. C'est d'ailleurs toute la question que se posent parfois ceux qui vont partir faire un tour du monde. En fait, au bout de 6 mois de voyage, est-ce qu'on a toujours envie de partir à l'aventure? Est-ce qu'on a toujours la même curiosité? Et c'est pour ça que c'est important de rester connecté à ses émotions. C'est ok si en fait on n'a pas envie de bouger pendant 3-4 mois. C'est ok si en fait on est juste bien chez soi. En revanche, c'est dommage de voyager et de pas savourer.
Ouais, je suis d'accord.
C'est un gâchis d'argent, de temps. C'est passer à côté d'une opportunité de se découvrir, de découvrir les autres, de découvrir un autre monde. Effectivement, c'est dommage. Et je crois que, en tout cas, la grande aventure invite vraiment à ça, à ce terme qu'on appelle, on appelle ça maintenant du slow travel. Je crois que ce serait juste du voyage raisonné en français.
Super. Ça donne méga envie en tout cas de se procurer ce petit carnet. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets de carnet de ce type? Parce que tu disais que donc, carnet Goguette. Ah d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé d'où vient ce nom, Goguette.
Alors déjà, écoutez-le, faites-le résonner dans votre tête, go get, ça sonne trop bien.
Grave, ça me fait penser un peu années 20 quoi, tu vois, mais années 1920.
Ouais, tu vois les franges, tu vois les coupes de champagne qui s'entrechoquent, la musique.
C'est ça, des dames avec des, tu sais, les porte-cigarettes hyper longs là.
Alors, écoute, c'est drôle. En fait, c'est un terme qui vient du XVIIe siècle. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a plusieurs significations. Ça pouvait être à la fois une beuverie entre mecs. Alors, c'est pas, je crois, le terme le plus usité. Mais ça veut dire aussi légèrement ivre et de belle humeur. J'adore ce terme.
J'adore.
De belle humeur.
J'adore.
Et je crois que la traduction que je préfère, c'est celle qui est faite en anglais de out enjoying oneself. Et on pourrait le traduire par en promenade. Et moi, j'adore parce que, en fait, parfois, les mots, on n'a pas besoin de connaître leur sens, mais on les ressent en nous. Et moi, quand j'entends goguette, eh ben, j'entends à la fois l'enthousiasme, la joie, la curiosité, l'envie d'aller explorer le monde et la simplicité aussi. Et surtout, la vraie raison, peut-être, ça, c'est venu dans un second temps, en fait, toutes ces explications. La vraie raison, c'est que depuis que je suis enfant, mon père, il dit « Allez, on part en goguette ». Qui est une expression pour dire, allez, voilà, on part à l'aventure. Mais l'aventure, ça peut être d'aller faire des courses au centre commercial toute l'après-midi ou d'aller se balader dans Paris chez les bouquinistes ou d'aller au ciné, de se faire un resto. En fait, parfois, quand j'étais petite, c'était, allez, on part en goguette. Et en fait, on allait manger au poivrier et regarder un film. C'est du coup une expression que mon père dit toujours et que j'adore et qui, pour moi, est vraiment liée à ces moments un peu chouettes en famille où tu pars explorer.
Mmh. En plus, ça a une importance toute personnelle pour toi en lien avec, avec ta famille, donc... Et donc, quels sont les est-ce que t'as des projets après ce carnet? Est-ce que tu sais déjà d'autres carnets qui vont sortir ou c'est encore tu te laisses le temps de voir déjà?
Alors évidemment, pour l'instant, Carnet Goguette c'est une toute jeune marque. Je suis toute seule à gérer ça, donc c'est difficile de pouvoir assurer sa pérennité dans le temps. C'est pour ça que voilà, si le projet vous plaît, soutenez la campagne Ulule parce que moi, ça me permet de l'inscrire dans le temps et de voir venir. Mais évidemment, j'ai mille idées d'autres carnets. Et je pense qu'ils vont se lier à ma vie. J'ai plein d'idées. Évidemment, il y en aura un sur l'union pour les gens qui choisissent de s'unir. Il y en aura un sur l'amitié. Il y en aura un pour les anniversaires. Il y en aura un sans doute sur la spiritualité, sur les bilans de vie, sur voilà tout ce qui est tous les moments importants qu'on a envie d'inscrire dans la matière, sur lesquels on a envie d'écrire. Et d'ailleurs, parfois, ce sera des carnets qu'on pourra pas écrire seul, qu'il faudra écrire avec d'autres gens dans des cadres, voilà, de réunion. Et aussi, pour Carnet Goguette, j'ai envie que ce soit plus qu'une marque de papeterie, que ce soit aussi un lieu, une plateforme d'expérimentation et d'exploration. C'est ce que je commence déjà à faire avec les lives du lundi en ce moment sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre, où je donne la parole à des femmes qui incarnent une autre vision du voyage, audacieuse, engagée. On était par exemple avec Lucie Azema, qui est journaliste, qui a écrit un livre sur l'émancipation des femmes par le voyage, avec la photographe Clara Ferrand également. On a parlé du bivouac solo en fait. Cette semaine, c'était avec les dernières semaines, c'était avec Marine Sanclément qui a écrit un livre qui est parti sur les traces de deux exploratrices en Mauritanie parties dans les années 1930. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui va venir nourrir aussi l'univers de Carnet Goguette avec pourquoi pas aussi plus tard des retraites, de poésie. J'ai cette envie de poésie and party, donc voilà, peut-être de fêtes où on pourrait chanter, danser, écrire, randonner. L'idée, c'est que vraiment, ça soit un lieu d'expression de soi tel qu'on veut être. Et voilà, et notamment, on n'a pas eu trop l'occasion d'aborder, mais quand on commande le carnet La Grande Aventure sur la plateforme Ulule, il y a une méditation du voyage qui vient avec pour méditer soit sur la route, soit voyager depuis chez soi. Et ça aussi, c'est un terrain d'exploration, la méditation qui, je pense, va prendre un peu plus d'espace dans les mois à venir.
Merveilleux. Et quels sont, du coup, tes derniers défis? Quels sont les défis qui te restent?
Alors, il m'en reste 7. Pour rappel, du coup, il n'y a pas de question de temps. Donc, ça peut me mettre 2 ans. Là, en vrac, je me laisse le choix de changer complètement d'avis. Mais dans ceux qui me feraient vraiment vibrer, il y a l'ascension du Kilimandjaro ou du Mont Blanc.
Ce qui ne peut pas se faire en un jour.
Ce qui ne peut pas se faire en un jour, ce qui demande quand même pas mal de préparation physique, voilà, de technicité dans le cas du Mont Blanc, de budget aussi dans le cas du Kilimandjaro parce que c'est plus loin. Et ça demande quand même une petite préparation parce que c'est quand même assez haut. Mais aussi, j'aimerais bien faire une retraite Vipassana. Mm-hmm. C'est une retraite de 10 jours de méditation. J'aimerais bien peut-être faire de la plongée. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Oui, passer une semaine à la ferme, écrire un livre, apprendre à tirer. voyager. Et un ou ça, il y en a deux où je pense que cela, il faut y aller. C'est partir en vacances sans prendre une seule photo.
D'accord. Défi, ouais, effectivement.
Je pense que ça, c'est sacrée expérience, ce sera riche en enseignements. Et un qu'on m'a recommandé là, il n'y a pas longtemps, c'est de vivre 48 heures sans temps.
Ah oui.
Sans montre, manger quand on a faim, dormir quand on a envie de dormir, s'ennuyer quand on s'ennuie, comment avoir une structure, continuer à avoir des rendez-vous ou pas. En fait, qu'est-ce qu'on fait de son temps quand on n'a plus cette notion-là de temps qui passe?
Super intéressant. Ok, alors on arrive à la fin de l'interview. Donc j'ai deux petites questions. Est-ce que rapidement tu pourrais nous passer un message pour les auditrices, pour les autrices qui sont en train de nous écouter et qui ont peut-être peur de se lancer dans leur grande aventure, ou pour les encourager en tout cas à se lancer dans leur grande aventure.
Foncez, écoutez votre joie, vraiment. Ça doit être le seul indicateur de ce que vous faites ou pas. Pas besoin pour se lancer des défis, pas le temps de faire des trucs extraordinaires pour impressionner tout le monde. La seule personne que vous avez à impressionner, c'est vous-même. Et vous pouvez vivre des expériences extrêmement fortes avec des défis très simples. Et je donne souvent cet exemple d'une jeune fille, quand je lui dis, mais toi, ce serait quoi le défi qui te ferait vibrer? Elle me dit, bah, en fait, moi, j'aimerais tester peut-être 50 boulangeries et manger un croissant dans chaque. Et voilà, faire un peu mon top 10 des meilleurs croissants. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça n'a peut-être aucune utilité. Peut-être que pour la société, ça n'a rien de spécialement utile, mais elle, ça lui fait plaisir. Il y a tant de choses derrière ce projet. Et je suis sûre que tout le monde en soi a un petit projet comme ça qui le fait vibrer. Et voilà, pas besoin que ce soit utile, pas besoin que ce soit intéressant pour les autres, mais juste si vous avez des petits frissons, si vous ressentez un peu ce que vous ressentiez quand vous étiez enfant et que vous pouviez rester des heures sans lever le nez de votre livre, c'est que vous êtes au bon endroit. Et si ça vous fait aussi très 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 peur, c'est que vous êtes au bon endroit aussi.
En général, ça veut dire quelque chose quand même. Ok, super. Et du coup, la dernière question qui est la question récurrente du podcast. Donc, le podcast s'appelle De Vraie Vie et j'interviewe donc des femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Et le but, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, parce que tellement l'habitude, tu sais. Non, c'est pour effectivement le but, pourquoi j'ai créé ça, c'est pour montrer qu'il n'y a pas un seul chemin, qu'il y a plein de chemins différents et qu'on n'est pas obligé de suivre le chemin qu'on a suivi jusqu'à présent. Et pour toi, ça t'évoque quoi du coup, la vraie vie? C'est quoi ta définition de la vraie vie?
Waouh, je n'avais pas vu venir cette question.
Tu n'as pas écouté le podcast, jusqu'au bout en tout cas.
C'est marrant parce que ça, les mots résonnent vraiment en moi. Donc c'est vraiment qu'il y a une très grande justesse aussi dans cette formulation. De mener une vie authentique, vous en fichez de ce que les gens pensent, de la manière dont eux, ils mènent leur vie. Mais vraiment, moi, ce que j'ai appris avec ce projet, j'ai essayé beaucoup de me discipliner. Donc, courir 10 km en moins d'une heure, ne pas boire d'alcool pendant un mois, ne pas boire de café, ne pas boire de sucre. Mais au fond, ce qu'il y avait derrière, je crois, c'était ma difficulté à accepter que j'arrivais pas à rentrer dans un cadre. Et que j'avais toujours cet espoir que j'arriverais à me lever très tôt et à faire tout ce que je voulais faire et être vraiment efficace et surtout à toujours faire mieux, être dans la performance, optimiser. Vraiment, il y avait ces mots efficacité, utilité, optimisation. Aujourd'hui, je ne les recommande pas, ces mots-là. En revanche, la vraie vie, c'est juste accepter là où vous en êtes. Et moi, j'ai accepté que mon chaos intérieur était créateur. C'est-à-dire que voilà, il y a un jour je vais travailler très tard et puis le lendemain sera plus compliqué et puis je vais être terrassée par des émotions et puis en fait il va y avoir plein de choses qui me traversent tout le temps, mais ce chaos-là, c'est ce qui fait ma singularité, mon atypisme, ma curiosité, le fait qu'il y a des choses qui m'intéressent et qui sont des trucs de geek qui intéressent personne. Mais en fait c'est pas grave, si vous ça vous procure de la joie. Et c'est, ouais, c'est vraiment l'authenticité. La vraie vie, c'est ça, suivre son chemin, avoir une parole authentique, sincère, et de suivre sa joie.
Super. Merci beaucoup, Sophie. C'était un plaisir de te recevoir.
Merci. Plaisir partagé.
Et pour les personnes qui seraient intéressées par ce merveilleux carnet, je pense que ça vous a donné envie, normalement, si vous en êtes là, c'est que vous êtes à deux doigts de l'acheter. Donc la campagne Ulule est en pré-lancement, donc jusqu'au 10 décembre. Et les carnets sont livrés avant Noël, il me semble. Soit pour vous, vous vous faites un petit plaisir et vous le commandez, ou alors en message subliminal envoyé à votre entourage en mode « Ah, pour Noël qui arrive, voilà, pourquoi pas ?»
Ouais, c'est une super idée pour garder, pour vous gâter, vous ou vos proches. Et c'est sûr que ce sera en tout cas un objet qui vous fera du bien ou qui fera du bien assez autour de vous.
Super. Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci Anastasia. Salut.